Les jardinières.
On débute le mois le plus court de l'année et si l'une de vos questions est que faire au potager en février, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour Raphaël.
Le plus court mais le plus beau de l'année, Mylène. Vous attention, vous avez oublié de le dire. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Pour répondre à vos questions au jardinage, ce matin nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Queuve. Merci d'être avec nous ce matin.
Et puis, bon réveil à toutes et à tous et soyez les bienvenus chez les jardinières surtout.
7h, 8h, les jardinières.
On démarre ce mois de février. Olivier, alors les dictons de jardinage sont aussi nombreux que les pissenlits au printemps. On dit par exemple février. Ah oui, celui-là il est de moi. On dit par exemple que février, le plus court des mois, est de tous le plus sournois, ou encore qui taille en février met du raisin dans son panier. Alors Olivier, dites-nous, est-ce qu'il faut prendre tous ces dictons au pied de la lettre ?
Alors oui, on les entend souvent et puis je pense qu'on peut tous en rire parce que toi, tu dis en février, tu mets du raisin dans ton panier. Moi, je vais te dire taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. Donc après, chacun a son petit dicton, il faut y croire, c'est un peu comme les secrets.
Mais est-ce qu'il faut vraiment s'y tenir à ces dictons ? Parce que finalement, il y en a alors certes pour tout ce qui est nature et tout ce qui est jardinage, mais il y en a un peu pour tous les goûts. Finalement, il faut un peu passer au-dessus et puis plutôt écouter la nature, non, Olivier ?
Alors, je dirais oui, volontiers, il faut écouter la nature, mais ces dictons, s'ils ont été dits, c'est qu'ils ont peut-être été déjà bien approuvés depuis des décennies par nos ancêtres. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus. Et puis, j'écouterai quand même encore un peu ces anciens qui disaient un peu ce genre de choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de vérité là-dedans.
Et sinon, à part Sophie au dicton, on fait quoi ce week-end au jardin, Olivier ?
Alors, on commence d'un petit peu ressortir parce que les jours deviennent ben, gentiment beaux. La semaine va arriver avec un beau soleil, comme nous l'a annoncé avant notre ami. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire au niveau des tailles, justement, au niveau des préparations de son potager, l'entretien. Il y en a qu'on passait un peu d'entretien dans tout ce qu'est l'outillage. Mais au niveau jardin potager, moi, je pense qu'il faut encore gentiment se mettre à préparer pour ses futurs semis, ses futures petites plantations. Pour bientôt commencer de planter ce fameux dicton aussi, on plante toujours, on sème toujours les petits pois 100 jours après Noël, donc je laisse calculer pour savoir quand il faudra les mettre en terre.
Vous avez 2 heures.
Merci beaucoup Olivier, vous le connaissez, le principe Les Jardinières, c'est votre émission du samedi matin. Vous avez jusqu'à 8h pour poser vos questions à notre professionnel. Vous le faites par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939. Vous pouvez également passer via le formulaire disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émissions questions aux jardinières avec la possibilité d'y joindre une photo.
Dans quelques minutes, nous allons mettre de la couleur dans vos plats grâce aux fleurs comestibles. Olivier, jardinier gourmand, nous partagera ses conseils sur celles qui ont de la place dans nos assiettes et pas seulement dans un vase.
7h, 8h, les jardinières.
Il n'y a pas que les fruits et les légumes, il y a aussi les fleurs. Ce matin, Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve, va sublimer nos assiettes grâce aux fleurs comestibles. Alors, on a tous déjà eu en décoration d'un plat au restaurant une fleur, mais on aurait tendance un peu à la laisser sur le côté, comme le persil. Alors, Olivier, ça apporte quoi de manger des fleurs ? Ça a vraiment un goût spécial ?
Alors après, c'est compliqué de dire que ça a vraiment un goût spécial. Bien sûr, chaque fleur a son petit goût particulier. Soit il est un petit peu acidulé, soit il est un petit peu corsé. Mais je dirais que le plat restera le goût principal et la fleur va amener un petit plus. Mais on a quand même des fleurs. Si vous prenez la coriandre, par exemple, la fleur de coriandre, c'est quand même une fleur qui a un goût très fort, très puissant. Mais je pense que ça restera l'élément un peu moins intense dans le plat, mais ça va amener une touche de couleur et ça peut amener un beau grand plus quand même.
Olivier, quand je vous écoute sur cette réponse, je me dis qu'on n'est pas prêt d'avoir des plaques uniquement de fleurs et que la viande a encore un petit peu d'avenir dans nos assiettes. Mais cette liste de fleurs comestibles, elle est quand même passablement longue et si vous pouviez nous en citer les plus courantes, vous nous diriez quoi ?
Alors justement, elle est longue et puis je pense qu'il faudra que tout le monde se renseigne un peu. Moi, je connais aussi, je ne suis pas le pro de la fleur comestible, mais j'en consomme. Mais si vous prenez dans nos natures le plus courant, vous avez la fleur de trèfle, vous avez la fleur de la marguerite, vous avez les fleurs de pissenlit, qui sont les fleurs de lavande. On trouve de la fleur de la ciboulette, qui c'est une petite fleur violette qu'on peut trouver en l'état sauvage. Donc on va les trouver dans nos campagnes et puis on peut les consommer aussi facilement.
Alors Olivier, on sait que certains champignons sont mortels. Est-ce que c'est le cas aussi pour les fleurs ? Faut vraiment éviter de les cueillir dans le but de les consommer si on ne les connaît pas ?
Alors justement, oui, il faut faire attention. Je mettrai aussi là-dessus pas mal d'interrogations. Il faut aussi, ceux qui ne connaissent pas, c'est comme les champignons, il faut se renseigner, il faut se documenter. On ne va pas répéter toujours le même exemple, mais si on prend l'ail des ours et puis le muguet, c'est deux plantes qui se ressemblent énormément, mais à l'odeur, on arrive à les différencier très, très facilement. Mais si on a des doutes, au goût aussi.
Et aux douleurs de ventre.
Mais il faut quand même faire attention, oui, bien sûr. Puis quand on dit des fleurs sauvages, il ne faut jamais oublier qu'on a beaucoup de fleurs dans la nature qui ne sont pas forcément par terre, mais si vous prenez par exemple l'exemple du tilleul, qui est la fleur de tilleul, on connaît tous le tilleul, on fait de la tisane avec, donc ça fait partie de nos fleurs qui sont courantes, qu'on consomme.
Mais alors Olivier, vous le disiez, on en trouve partout dans la nature, est-ce qu'on peut les cueillir partout ces fleurs ou est-ce qu'il faut éviter quand même certains endroits ?
Alors là, j'irais déjà dans le bon sens. Si vous avez à faire une récolte de fleurs de pissenlit, essayez de pas aller les chercher directement à 10-20 cm du bord d'une grande route ou comme ça. Donc, quand on dit cueillir ses fleurs en nature, il faut chercher la nature, il faut aller un peu dans des endroits où c'est que c'est encore neutre et puis où c'est que ces fleurs, justement, ont pris un goût et puis des odeurs depuis des années au niveau naturel. Donc, il faut éviter les endroits trop fréquentés, trop pollués ou comme ça.
Alors Olivier, on a trouvé par exemple un champ de pissenlit, on va aller en cueillir parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les pissenlits, pas que la salade mais aussi du miel par exemple. Comment on fait pour ramasser ces fleurs de pissenlit ? On prend toute la tige, juste le haut, juste les pétales ?
Alors pour la fleur de pissenlit, si toi tu arrives à les ramasser, à faire le miel, tu es assez forte parce que moi je pense plutôt que c'est les abeilles qui vont aller chercher la fleur ou
non,
le nectar.
Non, je parlais de miel de nectar, pissenlit.
De miel de pissenlit. Alors ce nectar qui va être transformé par nos abeilles, mais si on veut consommer le bourgeon du pissenlit, eh bien on va simplement le tirer, le casser sous la hampe florale, qu'après on peut consommer même fraîche, même le bouton d'un pissenlit, mais avant qu'il ne soit coloré, peut s'incorporer dans une salade, mélanger avec d'autres verdures et qui donne un goût très particulier.
Merci beaucoup Olivier. Si on trouve des fleurs comestibles en pleine nature, il est aussi possible de les faire pousser chez soi. Et justement, on va en parler dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve, nous parlons de fleurs comestibles. Alors, on en trouve en pleine nature, mais on peut aussi en faire pousser chez soi. Alors, Olivier, quelle est la fleur comestible qu'on trouve le plus souvent chez les privés ?
Alors, c'est quand même assez vaste parce qu'on en trouve quand même beaucoup. Avant, on parlait de lavande, on parlait de fleurs de ciboule, mais celle qu'on trouverait peut-être le plus, ce serait peut-être la capucine, la fleur de la capucine. On connaît aussi tous la fleur de la courgette, qui est une fleur qui est consommée en beignet assez couramment. Je pense qu'entre la capucine, la courgette et éventuellement ce qu'on trouve maintenant, c'est temps, on en trouve dans le commerce, c'est les fleurs de pensée. Donc, je pense que ce serait à peu près dans ceux-là qu'on consommerait le plus.
Alors justement, Olivier, vous le disiez en tout début d'émission, on arrive dans cette période où il faut réfléchir aux graines à semer dans notre jardin. Ces graines de fleurs comestibles, ça se trouve facilement ?
Alors, on en avait causé pour préparer un petit peu le sujet. J'ai un petit peu regardé. Oui, on en trouve dans nos fournisseurs de graines de marques connues qu'on trouve sur le marché. Il y a plusieurs marques différentes. Ils ont tous un petit assortiment de fleurs, des fois mélangées ou des fleurs séparées, qu'on trouve pour justement faire pousser ces plantes et puis qu'on peut mettre ces graines en terre pour avoir ces plantes, pour faire ces fleurs, pour les manger après par la suite.
Alors Olivier, après avoir semé les graines et patienté, on va imaginer que les fleurs sont arrivées. On est au printemps, on est en été. Quand est-ce qu'il faut les récolter ? Il y a un moment, par exemple, dans la journée, tôt le matin, tard le soir ?
Alors, je vais déjà commencer peut-être par rapport à à faire pousser ces plantes comestibles, parce que chaque fleur a son époque de préparation. On va semer des graines de pensée à l'automne, on va semer des graines de capucine, on va les faire très tard au mois d'avril, même début mai. Donc, automatiquement, on n'aura pas des périodes de récolte qui seront identiques à chaque plante. Et on sait tous que des plantes sont plus de printemps. On parlait du pissenlit avant. On ne va pas trouver des fleurs de pissenlit pour les transformer au mois d'octobre, novembre. Quoique, des fois, on en trouve encore quelques-unes. Mais chaque plante, chaque fleur a ses périodes. Donc, on va toujours être obligé d'observer que la fleur soit bien développée, qu'elle soit bien ouverte, je dirais, et qu'elle soit, pour la manger, justement, cette partie de plante qu'on va manger, elle soit encore en bel état. Donc, on ne va pas attendre trop longtemps et puis on ne va pas la prendre trop tôt. Donc, c'est à chacun, chacune de savoir gérer les périodes de... C'est comme un fruit quand il est mûr ou quand il n'est pas mûr. Donc on le voit assez facilement à l'aspect pour voir quand c'est qu'on doit récolter sa fleur.
Vous me trouvez un parallèle assez facile, puisque vous parliez de fruits et de légumes. Certains, on les lave, certains, on les lave pas trop avant de les mettre dans sa salade. Est-ce qu'avec une fleur, est-ce qu'on peut, après sa récolte, est-ce qu'on peut directement l'utiliser pour agrémenter une salade, ou est-ce qu'il faut la laver, cette fleur ?
Alors là, de nouveau, c'est toujours des histoires un peu personnelles. Moi, si je vais chercher des fleurs de capucine ou des fleurs de lavande pour agrémenter un plat ou quoi que ce soit, je vais pas la laver, parce que je vais aller la chercher dans un jardin privé, je vais la récolter moi-même fraîche et propre. Donc il n'y a pas d'intérêt à encore enlever peut-être cette partie colorée de la fleur ou son côté un peu velours pour la passer sous l'eau. Donc on va la récolter dans une période, comme vous disiez avant, de la journée où c'est que on n'est pas trop humide ou trop sec, pour que cette fleur reste le plus longtemps fraîche sur son plat.
Olivier, à part en salade, vous nous faites un peu saliver en nous proposant des idées de plats avec
ça
des fleurs.
Ça y est, vous avez faim, Mylène.
Oui, et c'est beau, les fleurs.
Oui, mais il faut aussi savoir qu'on parle fleurs parce qu'on a décidé d'un petit peu comment développer ce sujet. Après, on reste sur la partie fleurs, parce qu'après, si on commence de mélanger toute la partie des plantes qui sont comestibles, donc du feuillage, comme les orties par exemple, qui sont aussi une plante sauvage, on va utiliser le feuillage, mais on peut aussi utiliser une partie des fleurs. C'est un peu moins intéressant à les récolter, ça pique un peu, mais les fleurs d'une sauge, par exemple, une sauge ananas, pour ceux qui connaissent, le feuillage est très comestible, il est très bon, il a ce goût vraiment un peu d'ananas, que quand on coupe fin, on va mettre ça avec des fraises fraîches au printemps, ça va donner vraiment un goût particulier. Mais sa fleur, qui va fleurir plus tard, après au mois de juin, juillet, qui aura une fleur rouge, est aussi très bonne et a aussi un côté un peu dans ces goûts d'ananas qui vont vous décorer un petit dessert ou autre avec cette couleur rouge vif qui donne un bel attrait après sur un plat.
Les jardinières.
Le samedi matin, on parle jardin. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Queuve. Et il va répondre à toutes vos questions jardinage jusqu'à 8h.
Exactement, trois possibilités pour nous poser vos questions. Ne faites pas les timides, vous pouvez nous contacter par téléphone en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS en tapant jardin, un espace, votre question, et vous nous envoyez ce SMS au 939 ou via le formulaire internet qui est disponible sur la page des jardinières, avec la possibilité de joindre une photo et de vous lâcher sur les détails.
Olivier, en première partie d'émission, nous avons parlé des fleurs comestibles. On avait encore une ou deux petites questions à vous poser sur ce sujet. Alors, en été, c'est facile, hein, on se baisse pour les ramasser, on les mange tout de suite. Mais si on veut les garder pour le reste de l'année, mettre de la couleur dans nos plats en hiver, comment est-ce qu'on les conserve ?
Alors, le meilleur moyen de conserver ces fleurs, ces parties de plantes pour les utiliser plus tard, eh bien, c'est de les sécher. Je prendrai exemple, par exemple, si on prend de la fleur de souci, le calendula, le bluet.
On en a tous des soucis, on peut.
c'est pour ça que j'ai précisé le nom en latin, calendula. Après, vous avez aussi les marguerites. Donc, on peut les cueillir, on peut enlever les pétales assez facilement, et puis on peut laisser juste sécher ces pétales, et puis après ça vous donnera des belles couleurs pour mettre sur des salades en hiver ou autre.
Olivier, j'ai une question encore sur la conservation. Olivier, on peut faire aussi comme quand on était petit et on faisait des herbiers où on écrase la fleur.
Exact, oui, tout à fait.
Pour la garder entière, parce que c'est joli.
Oui, vous prenez des fleurs de bourrache, je crois qu'on en avait déjà vu une fois. Vous les mettez sécher entre deux feuilles de papier, vous les écrasez. Et puis quand vous faites un dessert, après, vous avez cette fleur bleue qui est sèche, qui est bien plate. Vous pouvez la poser sur un dessert. Et oui, ça fait très joli. On peut sécher de multiples manières des fleurs. Entière, écrasée ou en petits morceaux, sans problème.
Olivier, pour clore ce sujet sur les fleurs comestibles, avant que nos auditeurs puissent se lâcher sur leurs questions qui les concernent, peut-être votre fleur comestible à vous, votre préférée, c'est laquelle ? Et puis surtout, pourquoi ?
Alors justement, j'attendais un peu cette question parce que on a parlé beaucoup de fleurs, la fleur entière, la fleur à consommer directement. Et puis maintenant, on parle de conservation. Moi, je vais dans la nature, on trouve beaucoup de fleurs, on trouve beaucoup de feuillages avec des goûts particuliers. On n'a pas parlé au départ, mais vous avez l'oxalis, c'est une petite feuille qui est très bonne aussi. Mais moi, ma fleur, j'en aurais deux, je dirais, mais la fleur préférée de laquelle j'arrive à cuisiner assez souvent, c'est la fleur de foin. On va récolter les foins, on va chercher de la fleur de foin chez un agriculteur qui fait encore des foins à l'ancienne, où c'est que la récolte a été faite très tard, en juillet, août. Et puis là, on va récolter, on va chercher cette partie de foin, où c'est qu'il y a une odeur particulière qui rappelle la grange de dans le temps, chez le grand-père, la grand-mère. Et on cuisine avec cette fleur de foin. Et moi, ça m'apporte dans des plats, je dirais, encore plus de plaisir que de manger une fleur entière.
On va tester
ça. Dans un instant, la suite des jardinières. On va répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, c'est le moment de nous appeler.
Par SMS, vous tapez jardin, espace, votre question. Vous nous envoyez ce message au 939. Vous allez sur notre site internet. Il y a une page questions aux jardinières. Vous pouvez y joindre une photo et là aussi poser votre question. Ou sinon, ce qui est encore plus cool, c'est de nous appeler au 0901 70 20 20 pour poser votre question à Olivier Ribaud en direct.
7h. 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On répond aux questions que vous nous posez. On a reçu une question, Olivier, pour vous. Ça parle d'un palmier. Bonjour, mon palmier Xanthia a des feuilles qui deviennent brunes et sèches. Et cette personne se demande à quoi est-ce dû ? Alors, est-ce que vous avez une réponse ?
Alors oui, le palmier Xanthia, c'est déjà un palmier d'intérieur. C'est pas le palmier comme on voit dans nos alentours de piscine ou bien dans le sud. Donc c'est pas vraiment la même chose. Ce palmier Xanthia, il a des feuilles, des longues tiges avec des feuilles au bout. Et si elles sont venues brunes, il y a peut-être plusieurs raisons. La première, déjà, ça peut être une carence en eau, peut-être une fois ou l'autre. Et puis après, cette bout de feuille s'est desséchée. Ça peut être aussi un manque de vitamines, de nourriture, donc d'engrais dans le pot ou dans l'eau quand elle arrose ce palmier. Et puis après, il y a le tout, c'est que ça reste toujours des plantes qui viennent de pays où c'est qu'on a des climats et des humidités et surtout une luminosité qui est beaucoup plus importante que chez nous. Et cette plante, peut-être, elle a aussi beaucoup souffert du manque de lumière et c'est ça qui fait qu'elle essaie de se séparer de quelques feuilles parce qu'il n'y a pas assez de luminosité chez elle et les feuilles viennent brunes.
Merci beaucoup Olivier, ça nous fait plaisir ce matin de savoir que Citroën ne fait pas que des voitures. Je vous propose d'enchaîner avec cette question de Lucette qui nous a écrit ce matin depuis notre site internet. Elle nous écrit depuis Motier. Bonjour, j'ai lu sur internet que c'était le moment de rabattre les arbres fruitiers. Pouvez-vous m'expliquer en quoi cela consiste ?
Alors voilà, c'est aussi, comme elle dit, c'est le bon moment, surtout par rapport au climat aussi. On a une belle période où c'est qu'il fait un peu frais la nuit, mais ça, c'est pas grave. Et puis la plante, son arbre fruitier n'est pas gelé, le bois n'est pas dur, donc on peut tailler, rabattre. Et quand on prend le terme rabattre, ça veut dire sûrement qu'elle a envie de réduire fortement son arbre fruitier. Donc on peut le faire sans problème, en sachant que quand on rabat très fort un arbre fruitier, l'année suivante, donc l'année où c'est que ça va repousser, ça va faire des longs rejets, des longues pousses, et c'est là après qu'il va falloir savoir aussi les entretenir. Ça veut dire qu'il faudra éclaircir ces pousses, mais il ne faudra pas tous les renlever, parce que si elle recoupe toutes les pousses l'année suivante, eh bien elle aura toujours plus de pousses, puis à force de couper, chaque année elle n'aura plus que des baguettes et elle n'aura plus de fruits. Donc si on rabat un arbre fruitier une fois sévèrement, parce que c'est un vieux, parce qu'il y a plus beaucoup de vie dans cet arbre. Il faudra après le laisser se calmer au niveau croissance, 2-3 ans par la suite, pour qu'il ne refasse pas justement continuellement des jeunes pousses, des nouvelles baguettes d'une année pour ne plus donner de fruits. Donc il faut rabattre, c'est possible, mais après il faut calmer pendant 2-3 ans la taille.
Alors Olivier, c'est quoi la différence entre rabattre et simplement tailler ?
Alors justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tailler un arbre fruitier, on va le faire régulièrement, chaque année, chaque hiver, on va tailler son arbre fruitier, on va sélectionner des branches, on va garder une branche, on va déjà le structurer pour y donner une forme, donc la tête, les charpentes, avoir un arbre qui soit joli, élégant, et puis après, on a ce qu'on appelle les branches à fruits, en sachant qu'une branche à fruits, donc où il va venir les futurs fruits, c'est une branche qui aura déjà 3 ans, parce que la première année elle pousse, elle fait que des bourgeons à bois, l'année suivante elle va se transformer avec des bourgeons à fleurs, et la troisième année elle vous donnera des fruits sur ces bourgeons à fleurs. Donc si on enlève chaque année les pousses, eh bien on enlève la future récolte de 3 ans. Donc on va essayer d'après de chaque année sélectionner pour garder des branches pour faire des fruits.
Merci beaucoup Olivier pour vos précieux conseils. Je vous propose encore d'enchaîner avec cette question que l'on a reçue. J'ai lu qu'on pouvait semer sous châssis des choux-fleurs en hiver. Est-ce que je peux installer un châssis et le faire maintenant ?
Alors voilà, il faudrait déjà dénommer ce qu'est un châssis. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un châssis en termes horticoles.
Alors je sais ce que c'est un châssis dans une voiture, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin à mon avis.
Alors dans nos jardineries anciennes, on avait ce qu'on appelait une couche et un châssis. Donc la couche, c'est un endroit où c'est qu'on mettait de planches, de supports, donc pour mettre au milieu de la terre. Et dessus, on mettait un châssis. Le châssis, c'est un châssis en verre. Donc c'est comme une fenêtre, un cadre, et puis c'est une plaque de verre. Donc le soleil va donner très fort sur ce châssis qui va donner de la chaleur dans cette petite partie de terre qui se trouve en dessous. Et puis on faisait aussi dans le temps le pied chaud, donc on enlevait la terre, on mettait d'abord du fumier au fond, on mettait la terre dessus, et puis après on rebouchait tout ça avec notre châssis, donc on avait de la chaleur du pied, on avait la chaleur du soleil. Donc à cette période, on peut commencer de préparer ses couches avec ses châssis et semer ses choux-fleurs, semer les poireaux, semer des jeunes salades par exemple, ou même repiquer des salades. Et puis s'il fait très froid pendant la nuit ou pendant une période de 2-3 jours, on peut couvrir ce châssis avec une bâche, une couverture, une isolation épaisse, et qu'on renlève dès qu'il y a le soleil qui revient, et ça chauffe tout de suite le sol et la terre pour faire pousser ce qu'on a mis en dessous.
Le châssis, on pourrait le comparer à une serre ?
Exactement, c'est une petite serre très basse, et puis le volume d'air à l'intérieur de la couche où on a mis ce châssis dessus, donc cette fenêtre, c'est une fenêtre, on peut utiliser des anciennes fenêtres pour faire ça, mais il ne faut pas qu'elle soit trop isolée, justement, c'est pour que le soleil puisse chauffer rapidement ce petit volume. Donc ce qu'on met sous châssis a moins de volume d'air que dans une serre, donc c'est plus vite chaud et ça pousse plus vite.
Les jardinières.
En première partie d'émission, Olivier nous a parlé de fleurs comestibles, une idée originale et goûteuse pour sublimer vos plats, je vais y arriver. D'ailleurs, tous ces bons conseils et les fleurs comestibles seront à retrouver en podcast sur notre site.
Pas les fleurs, juste le son, hein, oui. Et les conseils.
C'est déjà pas mal. Olivier, avant de vous laisser filer, dites-nous, que faire au jardin en ce premier week-end de février ?
Eh bien, je pense qu'on a déjà parlé de 3 exemples avant. Je continuerai sur la lancée de cette préparation de petits endroits chauds. Alors, on a parlé de petites serres, de petites couches. C'est bien maintenant de préparer les gens qui aiment un peu jardiner ces petits endroits qu'on a aménagés, peut-être au bord d'une maison, pour y planter déjà quelques jeunes pousses de salade ou bien de commencer de faire ses semis. Pour d'autres, eh bien, il y a encore quelques travaux à faire, tout ce qu'on disait aussi de taille, de rabattage d'arbres fruitiers ou de préparation justement pour finir de tailler ces haies autour des maisons. Mais je dirais que c'est un petit peu ça qu'on peut faire au jardin pour le moment. Ou alors préparer, comme tu l'as dit avant, ces futurs achats de graines et puis de nouvelles semences pour pouvoir après trouver assez facilement, rapidement, ce qu'il faut pour semer au moment voulu.
Olivier, on parlait en tout début d'émission de ces dictons et vous nous disiez que souvent vous les écoutiez encore. Mais est-ce qu'avec les changements climatiques que l'on vit, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut faire plus en avant qu'il y a une dizaine d'années en arrière ?
Je dirais que oui, parce qu'on a un peu aussi amélioré nos structures, on a amélioré nos infrastructures dans les jardins, même le jardin privé pour les personnes qui ont des petites serres. On a trouvé des éléments, on trouve dans le commerce des éléments pour justement commencer de cultiver plus tôt. Par contre, faites attention, c'est pas parce qu'il fait un peu plus doux et puis qu'on a plus beaucoup d'hivers longs qu'on va déjà commencer de semer des jeunes pousses, des jeunes graines pour faire pousser des plants de tomates, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que ça sera trop tôt, elles seront trop frêles, et puis on n'arrivera pas à les garder assez longtemps pour les mettre après en pleine terre plus tard. Donc il y a des choses qu'on peut faire plus tôt. On observe la météo, c'est clair, mais après, il faut quand même rester dans des choses justes. Vous disiez aussi en début d'émission, on a des dictons, on parle peut-être plus beaucoup, mais on regarde aussi par rapport à la Lune, il y en a encore qui le font. C'est de nouveau la même chose, il faut y croire. Il y a des choses qu'on sème en lune montante, il y a des choses qu'on sème en lune descendante, il y a des particularités qu'il y en a qui observent, il y a des brochures, il y a des revues qui parlent de ça, et c'est quand même encore observé. Je prendrais tout simplement un légume qui descend dans la terre comme une carotte, on va plutôt la semer en lune descendante, et un chou qui doit venir grand, on va le semer en lune montante, on le fait dans la coupe des arbres, il y a des choses qu'on peut observer aussi bien par rapport à la Lune que par rapport au dicton.
Merci beaucoup Olivier, on rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Queuve. On vous remercie de votre visite et on vous souhaite un très bon week-end, on vous dit à très vite.
Merci beaucoup à vous et puis oui, à bientôt.
Merci Olivier, les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h pour une émission spéciale champignons.
On va manger.
Non, pas tous. Nous serons en direct durant une heure avec Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons dans le canton de Neuchâtel. Elle nous emmènera en forêt et nous parlera également des variétés de champignons qu'on trouve en ce moment dans les bois. Parce que oui, les champignons, c'est aussi au printemps et en hiver. Et si vous avez des questions sur les champignons, eh bien faites-les nous parvenir par SMS ou via le formulaire disponible sur notre site. Mais attention quand même, Gaëlle n'identifiera pas de champignons par photo pour vous dire s'ils sont comestibles ou non. Hein. On ne veut pas être responsable de problèmes.
De rien du tout.
Voilà. On vous souhaite un bon week-end. Les jardinières reviennent samedi prochain. Bon week-end, Raphaël.
Bon week-end, Mylène. Bon week-end à tous.
Et à très bientôt.
7h, 8h, les jardinières.